Nous allons continuer cette réflexion sur le point de vue de l'éthique religieuse, en comprenant comment l'éthique religieuse développe dans la volonté de l'homme et dans son intelligence toute une dimension de profondeur que l'éthique humaine comme telle ne développe pas. Alors, c'est l'adoration, je n'y reviens plus, on pourrait y revenir longuement, puisque l'adoration est sûrement un acte très important au point de vue proprement humain. Je vous avais dit que je reviendrai à propos de la liberté religieuse, n'est-ce pas ? Pour bien comprendre que cette adoration fait naître en nous une dimension particulière de la liberté. Et je crois ça important pour nous de bien comprendre ce que représente cette dimension spéciale de la liberté religieuse. Et quand on dit liberté religieuse, comprenez bien, ça veut dire justement que l'attitude de l'homme face à son Créateur, cette attitude implique un amour très radical, l'amour de la partie à l'égard du tout, un amour naturel, il ne s'agit pas de l'amour surnaturel et de l'agapé. Il s'agit de cet appétit naturel de l'homme vers ce qui est sa source, source de son être, source de sa vie, source de son intelligence. Et cet appétit naturel qui fonde le point de vue de l'adoration, cet appétit naturel, on peut l'accepter ou le refuser. L'homme est libre de l'accepter ou de le refuser. Il n'est pas libre de le déterminer, ça s'impose à lui, mais il est libre de l'accepter ou de le refuser, parce que Dieu est connu dans l'obscurité comme un bien qui ne s'impose pas à nous avec évidence. S'il s'imposait à nous avec évidence, évidemment, il n'y aurait plus de liberté. Quand nous verrons Dieu face à face, il n'y aura plus de liberté. Il n'y a pas une nouvelle dimension de la liberté, qui est la dimension de la liberté des bienheureux. Non. Mais là, il y a une liberté d'acceptation, non-acceptation. Et c'est en acceptant que l'homme s'oriente vers Dieu. Alors, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est assez difficile à bien préciser. Je crois qu'on peut quand même essayer de le préciser. Étant donné que cette liberté, de fait, génétiquement, selon l'ordre génétique, est celle qui éclot en dernier lieu. Je crois que la première liberté qui éclot en nous, c'est la liberté de l'artiste. L'artiste, comprenez bien, sans être des grands artistes, mais la liberté de l'artiste, c'est-à-dire la liberté de l'homme dans son activité du facere, dans son activité de réalisation, qui peut se réaliser en premier lieu dans le jeu. C'est peut-être même là où elle se réalise en premier lieu. Liberté de ceux qui jouent et qui acceptent les règles du jeu. Et qui les acceptent ou ne les acceptent pas, ils peuvent se mettre en dehors. Mais ils acceptent, ils n'acceptent pas. Donc c'est une liberté, vous voyez, qui est une liberté de l'ordre de l'exercice. Parce qu'on est tout à fait libre, hein, de se détendre au football en acceptant les règles du jeu. Au tennis, en acceptant les règles du jeu, ou de ne pas les accepter. On peut être anarchique, n'est-ce pas, jusque-là, où on peut au contraire vouloir que le jeu se fasse de la manière la plus nette. Il y a toujours, jusqu'à la fin de notre vie, n'est-ce pas, les caractères se manifeste particulièrement dans le jeu. Ça, Et c'est la dernière des choses qui est assumée par la charité. Faut pas l'oublier. C'est même très très curieux ça. On peut être très très vertueux en vie commune, mais dès qu'on est sur le terrain de foot, immédiatement, la nature reprend son primat. C'était très étonnant ça. Comme pour conduire une voiture. C'est un peu la même chose. C'est que c'est pas la prudence habituelle, c'est autre chose. Il y a une prudence artistique, il y a une prudence, oui, il y a une prudence religieuse. C'est ce qui peut scandaliser les gens, ça. Ils disent, un religieux, il conduit si vite, il devrait pas. Il devrait conduire plus lentement parce qu'il a l'éternité devant lui. Et puis c'est peut-être très très dangereux par rapport aux autres. Ils ne comprennent pas que dès que l'homme se retrouve en face d'un outil, le religieux n'est plus là. C'est très très curieux. Et l'aspect artistique reprend ses droits. C'est extraordinaire. Des choses très très étonnantes, ça. Quand on est plusieurs frères en religion, bon, normalement dans la vie religieuse, mais dès qu'on se retrouve on se retrouve exactement comme si on se connaît parce qu'on est frère, mais on se retrouve avec les mêmes réactions qu'avant, indépendamment. On dit, ah, la vertu n'a pas transformé. Mais non, c'est pas la vertu, ça. C'est autre chose. C'est notre caractère. Le point de vue artistique, je vous l'ai déjà dit, beaucoup plus proche du point de vue psychologique. Au fond, notre psychologie est une psychologie beaucoup plus d'artiste que d'homme moral. Beaucoup plus. C'est pas entièrement la psychologie de l'artiste, mais c'est beaucoup plus proche de l'artiste que de l'homme moral, c'est-à-dire de l'artiste, de l'homme qui réalise quelque chose. Donc, premier type de liberté, je crois que nous pouvons tous comprendre ça, c'est la liberté d'accepter ou de pas accepter. J'accepte les règles de jeu ou je les accepte pas. Ben, une fois que je les ai acceptées, ben, je dois m'y conformer. Je reste libre, parce que je peux partir, mais je dois m'y conformer. Deuxième type de liberté, c'est dans l'acte moral, au point de vue du choix. Bon, il n'y a pas de liberté de choix au sens artistique, parce que les voies de l'art sont déterminées. Et comme les voies de l'art sont déterminées, il n'y a pas de liberté de choix dans l'artiste. Il n'y a qu'une liberté d'exercice. Ce qui fait comprendre le caractère beaucoup plus impératif de la liberté de l'artiste que de l'homme moral. Parce que les voies sont déterminées. Et alors on est très impératif là-dessus. Quelqu'un qui connaît son métier ne peut pas accepter qu'on le fasse autrement. C'est impossible. On n'allait pas lui demander de le faire autrement. Ce serait aller contre sa conscience d'artiste. De réalisateur, peut pas. Alors, c'est pour ça que c'est toujours la liberté d'exercice, de faire ou de pas faire. Tandis que dès que le point de vue moral apparaît, alors il y a la liberté de choix. Et c'est dans la liberté de choix, il y a une autre liberté morale aussi, puisque je peux accepter un amour ou le refuser. Ce premier amour, je peux l'accepter ou le refuser. Quand on sent un premier amour, on est libre de l'accepter, on est libre de le refuser. Mais c'est à l'égard du choix, et du choix amical, du choix de l'ami, que la liberté morale prend toute sa dimension. Là, il y a quelque chose de très très nouveau. Vous voyez, c'est propre d'une liberté qui est spécifiée par l'ami. Je choisis l'ami au milieu de tous les autres. Alors, à côté de l'ami, il y a aussi le choix d'une quantité d'autres moyens. Alors, je crois que le troisième type de liberté, c'est la liberté religieuse. Je crois que dans la liberté religieuse, il y a quelque chose de nouveau, de particulier, puisque c'est l'homme face à Dieu. Vous voyez, au fond, vous avez toujours la question de l'homme présent à l'œuvre. Vous acceptez ou vous refusez l'œuvre, ça c'est facile. L'adjuré, c'est l'homme présent à notre homme, à l'ami, et puis l'homme présent au créateur. Il y a trois présences Et ces trois présences impliquent trois responsabilités différentes et trois possibilités différentes d'accepter ou de refuser. Alors, c'est la liberté religieuse par rapport au Créateur. Je posais la question la dernière fois, parce que je crois que c'est important pour nous d'y réfléchir. Je peux accepter ou refuser de considérer ce lien au début. Un enfant, parce que ça peut aller très vite, ça. Un enfant peut avoir un désir de prier, un désir d'adorer, un désir de se mettre en présence de celui qui l'appelle, qui est son créateur. Alors, il peut refuser, pour des quantités de raisons, le contexte, où il agit simplement et puis on lui dit que c'est stupide. Alors après, il y a quelque chose qui est brouillé, il n'a plus la même attitude, la même spontanéité. Donc, il y a une liberté d'exercice, il y a en même temps une liberté de choix, ce qui me semble très particulier. Parce que cette liberté de choix fait parce que c'est un acte moral, hein. On est dans le point de vue moral. Or, le point de vue moral implique toujours le point de vue du choix. Je choisis de considérer le Créateur comme celui vers lequel je me réfère, je me soumets, je l'adore. Et dans l'acte d'adoration, il y a un choix. Je crois que l'acte d'adoration implique toujours un choix. Et donc la liberté religieuse va se nouer autour de l'acceptation, pas l'acceptation de l'adoration. Mais c'est très curieux que quand on voulait faire apostasier quelqu'un, c'est toujours à l'égard d'un choix. Un choix religieux, adorer une statue de César, adorer une idole. Et c'est toujours le choix qui consiste justement à considérer que celui qui est présent à nous, même s'il est d'une façon cachée, c'est celui-là qu'on considère comme celui vers qui nous nous lions. Nous sommes liés par un acte d'adoration. Donc je crois que dans cette liberté religieuse, nous n'avons pas un nouveau caractère élémentaire. Ce n'est pas élémentaire l'acte religieux, c'est jamais élémentaire. Parce que ça suppose la sagesse. C'est jamais élémentaire. C'est complexe. Et c'est pour ça que dans l'attitude religieuse, il y a premièrement et fondamentalement une attitude morale. Une attitude religieuse va pouvoir se manifester dans un point de vue communautaire. Il ira là à Fatshéré. Ce sera justement le sacrifice. Ce sera l'attitude religieuse qui va se manifester, la liturgie. L'attitude religieuse qui se manifeste en communauté. Et le point de vue liturgique implique un fatcheré, ça c'est bien évident. Il suffit de regarder du reste la Bible pour s'apercevoir que progressivement, on voit que le fatcheré est de plus en plus complexe. Alors qu'au début, le fatcheré est très très simple, il n'a presque rien, il vient le fatcheré de plus en plus complexe. C'est un autel, c'est la tente, la tente de la rencontre, c'est le temple. Il y a une complexité, et je dirais même que l'attitude religieuse on ajoute tout le temps, tout le temps. Il faut de temps en temps des réformes, des purifications pour alléger. Très curieux, ce point de vue-là. C'est pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que l'homme se trouve dans un état d'infériorité très grand par rapport à Dieu? Alors, il voit que tous ses gestes sont des gestes misérables, peu de choses, alors il veut en ajouter. Mais c'est un fait. Il me semble que toutes les religions on ajoute tout le temps. Et alors, il y a des moments de réforme où il y a une purification. On retrouve vers quelque chose d'une intériorité. Mais constamment, c'est comme ça. Au fond, il y a tout un rituel. Et je crois que ça, c'est le propre du rituel. Il en ajoute tout le temps. Alors, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que dans cette attitude religieuse, il y a l'agir, le choix. Et il y a aussi cette attitude de l'homme capable de réaliser quelque chose, de réaliser une œuvre qu'il offre à Dieu. Le sacrifice est une œuvre que l'homme fait pour signifier qu'il est totalement remis à Dieu. Il adore intérieurement d'abord, mais il éprouve le besoin que son adoration prenne cette dimension cosmique, cette dimension communautaire et cosmique. Parce qu'il sait que tout l'univers ne retourne vers Dieu que par lui. Il est celui qui domine sur l'univers. Il a le dominium sur l'univers par son travail. Et il faut que par son travail, l'univers retourne vers Dieu. C'est par lui que le ciel et la terre chantent le Seigneur. C'est par lui que les étoiles et la pluie glorifient Dieu. C'est par lui. Et donc, il faut qu'il assume toute cette dimension cosmique. Toute cette dimension cosmique demande d'être assumée par l'adoration et être assurée dans le sacrifice. Je crois que le sacrifice sur les hauts lieux, à ce point de vue-là, est premier et le plus fondamental. Ensuite, il construit un temple. Mais c'est le sacrifice sur les hauts lieux, les Samaritains et les Israélites. Bon, on voit bien l'exemple des deux. Et je crois que le point de vue des hauts lieux, sacrifier sur les hauts lieux, c'est quelque chose de plus naturel. C'est le premier. Il faudrait voir les histoires des religions, c'est une chose très très difficile et très très complexe. Hein. Mais je crois que c'est très important de ceux qui étudient ça et qui peuvent étudier ça chez les Pygmées. Il va nous faire une étude sur les Pygmées. Sur les Pygmées, voir comment de fait ils ont le sens de l'adoration, le sens du sacrifice, le sens communautaire de la chose. La communauté est une communauté religieuse. Et peut-être que c'est même premièrement religieux. Oui, ça, c'est très difficile. Pierre Desfontaines, que je connaissais bien, qui était géographe humain, qui étudiait géographie humaine. Et Pierre Desfontaines disait, lui, que ce qu'il y avait de premier dans la communauté, c'était le point de vue religieux. Et ce qui est premier dans le point de vue, il le faisait en tant que géographe humain, et il disait que c'était même ce qu'il avait premier, lui, pensé dans l'invention de l'art. C'était cette attitude religieuse qui avait donné les initiatives premières. Vous voyez, ce qui est au fond assez normal, si vraiment c'est le lien profond avec le Créateur, c'est normal que ce soit source d'une quantité d'inspiration. Alors, il faudrait situer là le mythe de Prométhée. Comment aussi on considère que l'art peut être usurpateur des pouvoirs de Dieu? Voler à Dieu le feu. Et c'est par le feu que les arts peuvent se développer. S'il n'y avait pas le feu, il n'y aurait pas d'art. Ça, c'est sûr. Et donc, le feu, qui est un élément naturel, mais qui est parmi les éléments naturels l'élément le plus proche du divin, capter le feu, dominer le feu, dominer l'univers. Hein. C'est donc dominer même le feu. Ça, c'est la vision chrétienne. Et la vision païenne dans le Prométhée, c'était voir une rivalité entre Dieu et l'homme. Voir la rivalité entre Dieu et l'homme, c'est une chose très ancienne, n'est-ce pas ? C'est une chose, c'est le démon. Des mots qui voient ça tout de suite et qui met dans le cœur de l'homme cette espèce de rivalité, et donc qui supprime ce qu'il y a de naturel dans l'attitude religieuse en mettant une opposition et en faisant croire que par l'adoration on se rend esclave de Dieu, en faisant croire que par l'adoration on est lié à Dieu, mais lié à Dieu d'une manière telle qu'on perd sa liberté. C'est un petit peu tout le point de vue de Hegel par rapport à Abraham et le grec. C'est un peu sous-jacent à ça. Et je crois que c'est très important de se poser la question, justement, dans une position comme la philosophie hegélienne, je crois qu'on ne peut pas justifier philosophiquement l'attitude religieuse. On ne peut justifier philosophiquement l'attitude religieuse que lorsque, justement, il y a un réalisme qui fait que le primat de l'être premier et du créateur est reconnu comme devant passer devant. L'adoration nous fait qu'on laisse Dieu passer devant. Et c'est peut-être le critère de l'authenticité d'une philosophie, cela, de pouvoir justifier ce que représentent les traditions religieuses et justifier ce que représente cette liberté religieuse, liberté d'accepter ou de refuser cette emprise de Dieu sur nous, de choisir ce que représente ce lien de médiation à l'égard de Dieu par le point de vue de l'adoration. Ce qu'il faudrait étudier ici, n'est-ce pas, parce qu'au point de vue philosophique ce serait intéressant, ce serait d'étudier toutes les défigurations qui sont aussi très multiples. Les sacrifices d'enfants. Parce que les sacrifices d'enfants, on peut être sûr que c'est une défiguration. C'est nécessairement pas quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Alors les sacrifices d'enfants existent dans des quantités de religions. Une chose très, très, très importante pour se concilier après certaines fautes, se réconcilier les dieux. Mais, alors, ça me semble important d'étudier cela pour voir comment l'imaginaire peut transformer et abîmer ce qu'il y a de plus noble en nous. Ce qu'il y a de plus noble en nous, c'est notre sentiment de dépendance et d'amour à l'égard du Créateur. C'est cet amour de la partie à l'égard du tout. C'est ce qu'il y a de plus noble et de plus grand en nous. Accepter cette dépendance, la reconnaître et en vivre, c'est ce qu'il y a de plus grand. L'imaginaire est là toujours pour nous faire le centre de l'univers. Ça, c'est la propension de l'imaginaire à l'égard avec les passions. Alors, si on devient le nombril du monde, n'est-ce pas, on ne peut plus adorer. C'est impossible. On est dans l'impossibilité d'adorer. Alors, s'il y a ce point de vue-là, on comprend très bien comment il est nécessaire d'acquérir la vertu de religion. La vertu de religion est nécessaire pour rectifier et empêcher l'imaginaire d'emporter et d'abîmer ce premier amour. De faire que ce premier amour demeure vraiment ce qu'il doit être. C'est-à-dire qu'il reste un amour saint qui nous lie vraiment au Créateur et qui nous permet de vivre de lui. Alors, c'est d'autant plus important qu'il y a cette liberté religieuse. Je suis capable de refuser à cause de l'imagination ou à cause de l'orgueil. C'est deux grands obstacles. L'imagination et l'orgueil. Parce que l'orgueil m'empêchera de faire l'acte d'adoration. C'est sûrement l'orgueil qui est le plus grand ennemi à l'acte d'adoration. Donc cet acte d'adoration qui me relie librement à Dieu et qui me donne comme une nouvelle dimension de la liberté, cet acte d'adoration va s'épanouir dans un acte de dévotion, ce que nous avions vu, se dévouer à Dieu, c'est-à-dire serviteur. Là, servir Dieu, c'est régner. Serviteur à l'égard de Dieu. Il faudrait voir comment cette dévotion va pouvoir se traduire dans des promesses, dans des vœux, dans des prières. Toute notre activité humaine à l'égard de Dieu. Et toute cette activité humaine à l'égard de Dieu, c'est le développement de l'attitude religieuse. Oui, c'est l'aspect confiance à l'égard du Créateur qui va me mettre dans cette attitude de dévotion pour reconnaître tous les droits absolus de Dieu sur moi. Et puis, cette dévotion va pouvoir se traduire à l'extérieur par le point de vue du sacrifice, pour essayer de comprendre ces différents liens qui existent. La vertu de religion est quelque chose qu'on acquiert, autrement dit, on devient un être religieux, alors que naturellement, on l'est, mais avec tout de suite les très grandes attaques de l'imaginaire et de l'orgueil, qui risquent d'étouffer ce qu'il y a de plus spontané et de plus profond en nous, et de mettre dans une attitude d'opposition. Parce que celui que nous atteignons comme notre créateur, nous reconnaissons qu'il a tous les droits sur nous. Il a autorité. Et s'il a autorité, on doit donc se soumettre à lui. Alors c'est là où une question se pose, savoir si l'éthique religieuse, ayant reconnu que l'être premier, Dieu, va nous mettre en présence de deux nouvelles vertus, qui sont la vertu d'humilité et la vertu d'obéissance. On va essayer de voir ça maintenant. Après avoir vu l'attitude religieuse vis-à-vis de Dieu, on va se demander si, ayant reconnu le Créateur, donc celui qui a une autorité absolue sur moi, mais à qui je peux m'abandonner parce que je sais qu'il m'a créé avec amour, et que je sais que Dieu ne pourra pas faire quelque chose qui serait contraire à son amour et à sa bonté. Alors, je me demande ici si cette découverte du Créateur et ce lien avec le Créateur va être source de l'éclosion de la vertu d'humilité et la vertu d'obéissance. La vertu d'humilité et la vertu d'obéissance ne sont pas des vertus au niveau proprement humain, éthique humaine. Nous n'avons pas parlé, et pour cause. La vertu de l'obéissance comme telle va apparaître dans la famille, ça c'est sûr, mais donc dans la philosophie politique. C'est à partir de la famille qu'on va parler de l'obéissance. Et dans la famille, on parle de l'obéissance. Les anciens parlaient de l'obéissance des enfants à l'égard de leurs parents, et les Grecs parlaient de l'obéissance de l'épouse à l'égard de l'époux. Aujourd'hui, on doit modifier cela. Pas selon les conditions justement dans lesquelles nous nous trouvons, on peut considérer qu'il y a encore l'obéissance des enfants à l'égard des parents, mais l'obéissance de l'épouse à l'égard de l'époux, on est un monde mort aujourd'hui. Et ce serait très intéressant du reste de voir si, au fond, c'est en fonction de certaines conditions que ceci existait chez les Grecs, ou est-ce que c'est de droit naturel. Parce que si, mais ce n'est pas notre propos immédiatement, parce que ça, c'est la politique. C'est la politique et c'est la famille. C'est dans la famille qu'on doit se poser la question, est-ce que l'épouse doit obéissance à l'époux, selon le droit naturel? Ou est-ce que, tout simplement, ce sont des coutumes? Alors, ces coutumes, ça change depuis la libération de la femme, ça ne joue plus beaucoup, non? Et alors, il vaut mieux le jour du mariage, de prendre les textes de Saint Paul, et faire un petit peu attention, de ne pas trop prendre ces textes-là, parce que ces textes-là risquent de mettre des choses qui risquent de faire immédiatement dans l'auditoire, il y a la moitié de beau, la moitié de contre, ça se voit tout de suite. La question qui se pose ici, c'est de savoir si l'obéissance va apparaître en éthique personnelle, puisque nous sommes dans l'éthique personnelle, au niveau propre de Dieu, comme créateur. Oui, si le créateur est pour nous un législateur, si Si le Créateur est pour nous un législateur, à ce moment-là, apparaît son autorité au niveau éducation, comme législateur. Et à ce moment-là, l'obéissance apparaît. Nous obéissons au commandement de Dieu. Nous avons un exemple magnifique dans l'Écriture. Moïse, c'est évident. Et Dieu donne la loi. Alors vous allez me dire, ça présuppose la foi d'Abraham, ça présuppose la foi de Moïse. C'est sûr. C'est sûr que Moïse a la foi, ça présuppose une certaine obéissance. Donc une obéissance très fondamentale. Et à partir de là, Dieu est législateur et Dieu apparaît comme celui qui éduque son peuple. Et alors, à ce moment-là, apparaît l'obéissance. L'obéissance au commandement de Dieu. Et l'obéissance au commandement de Dieu est quelque chose de religieux. Je crois que c'est suffisant, vous voyez, de voir ça, même si de fait le point de vue de Moïse qui nous transmet la loi implique le point de vue de la foi, parce que les commandements de Dieu restent à un niveau moral et non pas à un niveau moral religieux, à un niveau personnel et non pas à un niveau de évidemment de morale chrétienne. Vous êtes donc là en présence vraiment d'une morale religieuse qui va impliquer cette dimension, alors, cette dimension particulière de Dieu qui vient au secours de son peuple pour lui enseigner, pour déterminer ce que normalement il pourrait découvrir par lui-même, mais que, étant donné les conséquences et les influences mauvaises, la plupart du temps, on découvre autant. On découvre mal. C'est pour ça que la loi est donnée. La réflexion de saint Paul, la loi est donnée aux pécheurs. C'est vrai que si on n'était pas pécheur, on a besoin de loi. Et on n'aime pas la loi parce que la loi nous manifeste que nous sommes des pécheurs. C'est ça qu'on n'aime pas. En raison de notre orgueil, que nous refusons la loi. Parce que je me dis, je suis assez grand pour découvrir moi-même. Non, on n'est pas assez grand. Parce qu'en face de Dieu, les conséquences du péché font que, de fait, les choses les plus profondes en nous peuvent être obnubilées par l'imaginaire. Et c'est pour ça que nous avons besoin de certaines déterminations, même dans l'ordre moral, qui est le Dieu législateur. Et le Dieu législateur nous apprend à ce moment-là les différents commandements qui sont nécessaires pour nous rectifier, nous purifier. Donc, je crois qu'on peut dire, c'est assez difficile, je crois qu'on peut dire que la morale religieuse va impliquer la vertu d'obéissance au Dieu législateur, au Dieu créateur législateur. Il est normal que le Dieu créateur, qui nous gouverne en tant que Dieu, nous révèle ce qui est nécessaire à l'homme. C'est normal. C'est pas une chose extraordinaire, c'est normal. Dieu ne supprime pas les secours, qui sont les secours ordinaires, pour que nous puissions découvrir ce que nous devons faire. Et les commandements de Dieu nous donnent et nous disent ce que nous devons faire. Et si les commandements de Dieu nous disent ce que nous devons faire, les commandements de Dieu, à partir de ce moment-là, deviennent pour nous l'orientation profonde de notre vie. Et nous les recevons et nous coopérons à ces commandements en obéissant. À partir de là, va naître la vertu d'obéissance. Pas la peine de vous rappeler ce que c'est que la vertu d'obéissance, n'est-ce pas, vous le savez suffisamment. L'exercice propre de la vie. Alors, quelques mots sur la vertu d'obéissance, sur l'acte d'obéissance, hein, puisque on doit comprendre la vertu par l'acte d'obéissance. Il ne faut pas faire l'inverse. Hein. En philosophie, en théologie, on peut faire l'inverse. Mais pas en philosophie. En philosophie, c'est l'acte d'obéissance qui nous aide à comprendre ce que c'est que la vertu d'obéissance. Parce que l'acte d'obéissance est premier. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acte d'obéissance? L'acte d'obéissance, c'est justement accepter dans sa prudence, dans sa propre prudence, une autorité légitime. Reconnaître que nous avons besoin d'une autorité légitime. Et c'est reconnaître cette liberté, c'est reconnaître cette autorité. Et c'est pour ça que tant qu'il n'y a pas une adhésion au Dieu créateur, en morale personnelle, l'obéissance est très peu de choses. Et très peu de choses. Une fois qu'on a, une fois qu'on est sorti hein, de la famille, alors on a sa liberté propre et on a son orientation propre, on a sa prudence propre de s'orienter comme bon nous semble. Tandis que dès que l'attitude religieuse existe, dès qu'on reconnaît la dépendance à l'égard d'un être suprême, si cet être suprême nous a enseigné, et nous a enseigné ce qui était bon à notre nature humaine, ce qui était bon à l'homme et pour l'homme, nous devons tout faire pour comprendre cet enseignement, cette législation qui nous est donnée. C'est pour ça que, du fait qu'elle a existé, elle exige, pour la morale religieuse, elle exige d'être regardée. Je n'aurais pas le droit, si vous voulez, purement en tant que philosophe, je n'aurais pas le droit, dans la recherche d'une philosophie religieuse, dire le point de vue de la loi, c'était ancien, ça ne signifie plus rien du tout. C'est toujours actuel, au point de vue philosophique. Et je crois que du reste, qu'on retrouverait dans des révélations analogues des choses tout à fait semblables. Et ça, c'est l'autorité du Créateur, qui est législateur. Alors, il m'enseigne ce que je dois faire. Donc, premier point, reconnaître l'autorité de Dieu législateur. Reconnaître cette autorité. Pas d'obéissance sans reconnaître l'autorité d'un autre. C'est le problème de l'obéissance, c'est de reconnaître l'autorité d'un autre. Et reconnaître le caractère propre de cette autorité. Parce que les autorités sont diverses. L'autorité du Créateur ne fait pas nombre avec ma liberté et ne fait pas nombre avec ma responsabilité. Parce qu'il faut se rappeler ça, hein, parce que vous avez bien certains rejettent Dieu pour maintenir la responsabilité de l'homme. Sartre, Hartmann disent « Il faut que Dieu n'existe pas pour que l'homme soit parfaitement responsable. » L'existentialisme est un humanisme. Sartre dit cela et Hartmann dit la même chose. Pour que l'homme soit totalement responsable, il faut que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, nécessairement l'homme est en relation vis-à-vis de lui. Donc c'est important de saisir ce point sur lequel, de fait, la pensée moderne a pris cette attitude particulière de considérer qu'on ne pouvait pas coopérer avec une autorité suprême. Que l'autorité suprême, si on l'acceptait, supprimait notre autorité. Et donc supprimait notre responsabilité. Oui, c'est un très grave problème au point de vue philosophique. Il y a un problème très important, ça. De comprendre que de fait, le Créateur, parce qu'il est Créateur, ne fait pas nombre avec sa créature libre, avec sa créature spirituelle, c'est-à-dire avec l'homme. Et donc, tout ce qui en moi est cause seconde, par rapport à mon activité humaine, par rapport à mon éthique, tout ce qui est en moi cause seconde demeure dans une lumière plus grande lorsque je reconnais que Dieu est le Créateur et ne peut pas être mis en opposition vis-à-vis du Dieu Créateur. Cette opposition est fallacieuse parce que j'oublie que Dieu Créateur est source et qu'il ne peut pas faire nombre avec sa créature. Je crois que c'est la première chose qu'il faut souligner pour comprendre que l'autorité du Créateur est légitime et ne supprime rien de mon autorité. De mon autorité personnelle, de mon autorité dans l'ordre prudentiel. Il faut donc, au point de vue de la prudence, accepter l'autorité du Créateur. Deuxièmement, il faut reconnaître que ce que le Créateur dit et me communique est bien conforme à la nature. Vous voyez ? Parce que ce n'est pas une attitude de foi, faut attention. Je reste dans une attitude de philosophie religieuse. Le philosophe religieux a parfaitement le droit de recevoir des traditions religieuses, et parmi ces traditions religieuses, il y a Moïse et il y a l'étable de la loi. Et donc, pour le philosophe, Moïse et les tables de la loi, on ne les accepte pas en plus de la foi, on les accepte comme une opinion religieuse. Une opinion religieuse très, très vénérable, n'est-ce pas, une opinion religieuse très, très importante, mais c'est une opinion religieuse que je dois donc critiquer au nom de la philosophie. Je dois pouvoir tout comprendre philosophiquement parlant, je dois pouvoir tout comprendre dans une éthique religieuse. Et donc, je peux passer au crible de ma critique. Et c'est toujours l'homme qui est au centre. Hein. Et l'homme religieux, il ne faut pas l'oublier, c'est l'homme religieux, c'est l'homme rattaché à Dieu. Je dois passer au crible les 10 commandements de Dieu. Pour voir si les 10 commandements de Dieu s'imposent à l'homme religieux. Et ces 10 commandements de Dieu sont bien, pour un homme religieux, quelque chose qui l'aidera à vivre pleinement et totalement dans sa relation de créature à l'égard du Créateur. Il faut donc reconnaître l'autorité et critiquer le contenu du précepte. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est béni, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.